Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, où en est-on du moment populiste ? Il n'est pas encore élu, mais selon toute vraisemblance, Jair Bolsonaro sera le prochain président du Brésil. Le candidat d'extrême droite est arrivé largement en tête du premier tour de scrutin dimanche dernier, avec plus de 46% des voix. Il distance de près de 17% le candidat du Parti des Travailleurs. Bolsonaro appartient à cette nébuleuse des leaders populistes. Nébuleuse parce que malgré les efforts répétés pour fixer cette notion, le populisme échappe encore à une définition qui emporte l'adhésion. D'où un compagnonnage très hétéroclite sous cette appellation, qui fait se croiser aussi bien le probable futur président brésilien que son prédécesseur Lula, mais aussi Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orban, Matteo Salvini, et en France, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce qui les réunit, c'est au moins une promesse, celle de porter directement la parole du peuple, sans intermédiaire, contre les élites. C'est aussi un style, une façon de partir à la conquête du pouvoir, mais sur le fond, la comparaison trouve assez vite ses limites. Il se trouve en tout cas que les leaders et les partis dits populistes multiplient les succès électoraux. Aucune démocratie ne semble en mesure d'échapper aujourd'hui à ce phénomène qui fait dire à certains observateurs que nous vivons à l'échelle planétaire un moment populiste. Alors qu'en est-il vraiment ? Et où en est-on du moment populiste ? Eh bien, c'est la discussion et la question que nous allons poser ce soir à deux invités. Dominique Régnier, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à Sciences Po. Vous êtes le directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Vous avez beaucoup écrit sur le populisme, les populismes. Le dernier, c'était les nouveaux populismes. Chez quel éditeur ?
Rappelez-moi. C'est Fayard, Pluriel Fayard.
Et puis votre dernier ouvrage, l'an dernier chez Plon, Où va la démocratie ? Pour discuter avec vous, Federico Tarragoni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Paris Diderot. On vous doit, c'était en tout début d'année, à la découverte Sociologie de l'individu, sociologie au pluriel. Et vous allez bientôt publier, ce sera en début d'année prochaine, chez le même éditeur, La Découverte donc, l'éthique démocratique et l'esprit du populisme. Alors, puisque j'ai commencé avec l'actualité de l'élection présidentielle au Brésil, j'aimerais savoir si l'un et l'autre, vous êtes déjà d'accord pour dire que Jair Bolsonaro, ce candidat d'extrême droite, qui devrait l'emporter lors du second tour fin octobre, est un leader populiste. Dominique Régnier.
Je le classerai sans hésiter dans la catégorie des populismes. Vous avez insisté avec raison sur la pluralité par son style, par ses thèmes de campagne, par sa manière de personnaliser son message. La promesse, c'est lui en quelque sorte. C'est une incarnation plus qu'une représentation. Et aussi cette manière, peut-être qu'on y reviendra, d'homogénéiser le peuple de ceux qui le soutiennent dans une unité qui est souvent de se dire le représentant du peuple et non pas, par exemple, d'une classe sociale, ce qui suppose qu'il y a d'autres classes sociales et des jeux de conflits entre les classes sociales. Et donc, dans cette vague populiste à laquelle nous assistons, c'est aussi la disparition de la figure des classes sociales en général, de la classe ouvrière en particulier, qui n'a pas disparu en réalité, mais qui a disparu de la représentation politique qui s'opère.
Federico Tarragoni, même question.
Alors moi, je ne pense pas du tout que ce soit un populiste. Pour la simple raison qu'en Amérique latine, en fait, différemment de l'Europe, le mot populisme est beaucoup plus ciblé et beaucoup plus caractérisé par les sciences sociales. Et que donc, il y a une tradition populiste en Amérique latine depuis les années 30, continentale, dont, disons, le représentant le plus connu, c'est le péronisme. Et au Brésil, c'est Getúlio Vargas, donc président entre 1930 et 1945, puis entre 51 et 54, qui est considéré par les historiens comme le représentant de la tradition populiste continentale. Or, Vargas a été en quelque sorte le moteur d'une expulsion de la politique des fascistes. Parce qu'à l'époque, il y avait des fascistes au Brésil qui essayaient d'imiter justement Mussolini et les fascismes en essence, en quelque sorte, en Europe. Donc je dirais que le représentant de l'extrême droite aujourd'hui au Brésil est plutôt l'héritier de ce parti qui s'appelle l'Action Intégraliste, ce parti des années 30 qui est donc fasciste.
Mais ce que disait Dominique Régnier sur son style, sur le contenu de son discours, sur le fait peut-être ils ont désocialisé aussi le peuple, ça fait partie de la définition, en tout cas de celle qui revient en général pour qualifier quelqu'un de populiste ou non. Il se trouve que ce candidat Jair Bolsonaro il entre dans cette case. On peut au moins dire qu'il y a quand même quelques signes de populisme dans sa façon de, dans son style, disons, non?
Si on s'en tient uniquement à son langage et au discours politique, certes. Mais est-ce que c'est parce qu'on utilise le mot liberté qu'on est libéral? Est-ce que c'est parce qu'on utilise le mot égalité qu'on est socialiste? Ce n'est pas parce qu'on utilise le mot peuple de cette manière-là qu'on est populiste. Et je pense qu'une fois de plus, on a tout à fait intérêt à distinguer dans les usages politiques du mot peuple trois traditions politiques qui, à mon sens, sont très différentes, qui sont la tradition populiste, la tradition fasciste et la tradition nationaliste.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ces distinctions-là, Dominique Régnier? Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a peut-être deux façons d'envisager le populisme qui seraient assez continentales, disons, c'est-à-dire d'un côté l'Europe, en ajoutant peut-être les États-Unis, par exemple, et puis de l'autre, une tradition qui serait très spécifique à l'Amérique du Sud?
Il y a des... C'est un peu pour toutes les réalités politiques. Il y a toujours des éléments contingents, particuliers à une époque, particuliers à une ère géographique, culturelle. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours défendre la pluralité pour un concept comme le populisme aussi. Je ne crois pas qu'il y ait un populisme pur, par exemple. Il y a des manières d'en appeler au peuple. Il y a des manières de s'en prendre aux élites. Des manières de remettre en question la démocratie représentative. Des manières d'exalter un peuple national. Ce sont des différences que l'on peut retrouver entre des zones géographiques, entre des pays, entre des périodes. À la fin, je veux pas lasser en refaisant cette histoire-là, mais à la fin du 19e siècle, on a trois cas très différents, mais ça montre au moins la pluralité. On signale souvent le populisme russe, le populisme américain fin du 19e siècle et le populisme français du boulangisme. On peut les observer tous les trois. Ils ont des éléments communs, mais évidemment de fortes disparités en raison des systèmes qui les accueillent. Moi, j'insisterai quand même sur la réalité d'un événement contemporain. Moi, j'aime beaucoup le titre de l'émission aujourd'hui parce que je défendrai l'idée qu'il y a en effet un moment populiste et que c'est ça le populisme. C'est d'abord un moment. Le populisme apparaît dans les phases de transition historique dramatique, au fond, où un ordre se défait et nous sommes dans ce moment-là où l'ordre se défait sous la puissance de la globalisation. Pour l'Europe continentale, c'est une combinaison de globalisation et de crise démographique, ce qui n'est pas le cas au Brésil, pas dans les mêmes conditions. Il y a beaucoup de différences. Hein. Mais la transition est critique. Ça, c'est le même environnement, si je puis dire. Et chaque fois qu'on a vu du populisme avec ses variétés dans l'histoire, c'est toujours, que ce soit en Europe, en Occident ou ailleurs, c'est toujours sur un arrière-fond de transition très critique. Et nous y sommes.
Alors sortons peut-être du seul cas brésilien, mais est-ce que vous êtes d'accord, vous, Federico Tarragoni, pour dire qu'il y a aujourd'hui un moment populiste? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on parle énormément du populisme et des populistes aujourd'hui à la faveur d'un certain nombre de résultats électoraux à travers le monde.
Alors certainement, nous sommes dans un moment populiste, mais pas souvent, disons, au sens où on l'entend ordinairement. Nous sommes dans un moment populiste puisque je suis d'accord avec Dominique Régnier, nous sommes dans un moment de crise de la démocratie représentative dans la plupart des pays occidentaux, qui a ses causes et ses déterminants. On les a beaucoup étudiés en sciences politiques, l'éloignement entre les représentants et les représentés, la crise de confiance dans les institutions, la hausse des inégalités sociales, bon, tout un tas d'éléments qui expliquent cette crise des démocraties représentatives. Et les moments populistes apparaissent dans l'histoire. C'est le cas des trois événements historiques mentionnés par Dominique Régnier, les populistes russes, le People's Party et le boulangisme, lorsqu'il y a une crise du gouvernement représentatif. Par contre, ce qu'on met derrière ce moment populiste, c'est-à-dire la liste des gouvernements et des leaders charismatiques qu'on y met dedans, pour moi, appartiennent à des traditions idéologiques qu'il faut vraiment différencier, quitte en fait à confondre dans cette crise des réponses qui sont celles des moments populistes dans l'histoire, traditionnelles, qui peuvent être aussi des réponses progressistes, créatrices de droits sociaux, et des réponses au contraire régressives, comme celle de Trump, comme celle du peut-être prochain président brésilien, c'est-à-dire des réponses isolationniste, nationaliste, xénophobe, sexiste, raciste. Voilà, et c'est un tout petit peu le problème dans lequel nous sommes.
Alors, on reviendra dans un instant sur la différenciation des populismes, pour voir peut-être si certains sont particulièrement dangereux, et d'autres, si ce n'est inoffensif, en tout cas, qui peuvent être intéressants du point de vue du projet qu'ils portent. Mais pour rester quand même sur cette idée du moment populiste, vous en avez évoqué un, il y a Bertrand Badie et Dominique Vidal qui, chaque année, à la découverte, sortent leur édition de l'État du Monde. Et cette année, ça s'appelle Le Retour des Populismes. Et dans son introduction, Bertrand Badie évoque les différentes vagues qui ont existé. Il y a celle que vous évoquiez à la fin du 19e siècle. Il y a l'entre-deux-guerres. Il évoque notamment l'Amérique du Sud. L'après-décolonisation, avec un certain nombre de leaders, là aussi qualifiés de populistes. Nasser en Égypte, Sukarno en Indonésie. Et puis, le phénomène actuel. Est-ce qu'on pourrait parler d'un phénomène cyclique du populisme, Dominique Régnier?
Alors, il y a une dimension... On peut dire cyclique avec l'hypothèse suivante qui est que les formes d'organisation qui ordonnent les sociétés ont nécessairement un terme à leur existence, et donc quand on sort de leur du temps de leur efficacité, de leur stabilité, qu'elle soit autoritaire ou libérale ouverte, il y a un moment de crise à la fois d'organisation et idéologique, et donc nous y sommes. Donc dans ce cas-là, je dirais oui, on peut tout à fait le soutenir. Et de mon point de vue, il y a la manifestation, alors là ça c'est plus continental européen ce que je veux dire là, mais la manifestation d'un mouvement populiste européen continental est très claire pour moi à la fin des années 80, début des années 90, et c'est depuis ce moment-là, je tiens beaucoup à cette séquence chronologique, parce que c'est depuis ce moment-là qu'on observe de manière continue, sans marche arrière, une croissance régulière dans un nombre de pays de plus en plus nombreux, des forces de type populiste. Et ça par contre, on l'avait jamais vu. On a vu des crises concentrées. Le populisme a souvent été, je crois même toujours, sur cette zone-là, hein, qui est la nôtre, ou les États-Unis, une espèce de crise conjoncturelle très forte et très courte, au fond, comme une fièvre, disait-on parfois chez les historiens. On n'a pas une fièvre pendant 25 ou 30 ans, ça ne s'appelle pas une fièvre, et là, c'est un peu ce qui nous arrive depuis la fin des années 80.
Puisque vous êtes d'accord sur l'idée qu'il y a un moment populiste, Federico Tarragoni, oui. Aujourd'hui, vous le datez de quand le début de ce moment, et vous diriez qu'on en est où de ce moment? C'est-à-dire, là aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour parler d'un phénomène cyclique, mais... un cycle, bah, évidemment, ça a un début et ça a une fin. Est-ce qu'on est plus proche de la fin ou est-ce qu'on est plus proche du début?
On est beaucoup plus proche du début que de la fin. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des cycles populistes parce que, et j'insiste, c'est ma définition en tout cas de ce phénomène, le populisme est un moment critique, démocratique, qui se développe au sein des gouvernements représentatifs. Donc ce sont des moments qui, en quelque sorte, cherchent à démocratiser les démocraties existantes. Et puis, bah, ça peut devenir effectivement des régimes fascistes, ou ça peut devenir aussi des régimes progressistes, créateurs de droits sociaux, comme ça a été le cas en Amérique latine.
Mais ça veut dire que si on part du principe que c'est cyclique, ça signifie que c'est consubstantiel à la démocratie, c'est-à-dire que régulièrement, la démocratie est confrontée à des crises, et que ces crises-là, elles sont illustrées notamment par la montée des populismes, et que voilà, on revient finalement à des phénomènes qu'on connaît déjà.
Tout à fait. Et les crises, quand on étudie l'histoire justement des moments populistes, viennent de la jonction entre les démocraties représentatives, les gouvernements représentatifs, et les politiques libérales, et aujourd'hui néolibérales, qui augmentent de façon structurelle les inégalités. Ça a été le cas en Amérique latine. Et à chaque fois qu'il y a une crise sociale produite par l'évolution libérale des démocraties, il y a des moments populistes. Et pour répondre à l'autre question, je dirais que c'est beaucoup plus récent, puisque pour moi, justement, ce moment dont parle Dominique Régnier a été un moment de renaissance du nationalisme en Europe. C'est-à-dire Marine Le Pen, tous les partis contestataires, y compris les partis régionalistes, portaient une définition du peuple-nation. Et donc là, à mon avis, il y a eu un couac dans l'analyse de ces mouvements-là, en tout cas c'est ma position, et au contraire, le moment populiste contemporain commence à partir des mouvements des places, c'est-à-dire des mouvements de l'après-2011, qui ont créé, là pour le coup, un renouvellement des forces de gauche dans un sens populiste.
Dominique Régnier.
Là, il y a un désaccord intéressant ici. Moi, je suis frappé par le fait que ce modèle-là, je ne l'observe pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais je ne l'observe pas. Ce que je vois en Europe, ce qu'on voit en Europe aujourd'hui, c'est un succès des partis populistes. Alors, sur un positionnement nationaliste, identitaire, ça c'est très clair, et c'est le populisme qui a le vent en poupe aujourd'hui en Europe, y compris dans des pays où il n'y a pas de chômage, y compris dans des pays très riches, y compris dans des pays qui sont les champions de l'égalité. Le dernier exemple, c'était la Suède. C'est difficile de dire que la Suède n'est pas un pays qui accorde de l'importance à l'égalité et au bon accueil de quiconque. Et là, il s'est passé, je ne vais pas développer le cas suédois, mais qui est passionnant parce qu'il est très symptomatique. On pourrait dire le Danemark, on pourrait dire la Finlande, on pourrait dire les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, et même des pays extérieurs à l'Union européenne, la Norvège, où l'égalité est également particulièrement importante, ou des pays qui, de fait, traitent correctement l'ensemble de leur population, même s'il y a des inégalités, les plus pauvres sont déjà très riches. Je pense à la Suisse, où le revenu médian est de 4 000 euros.
Ça veut dire que la montée des populismes, en tout cas lier cette montée des populismes à des conditions économiques et sociales dégradées, ça ne convient pas comme explication,
non,
en tout cas ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas du tout. Et même quand on fait des corrélations statistiques, depuis maintenant 15 ans que l'on fait ça, quand on cherche quelle est la variable qui explique le vote populiste, y compris au sein de la classe ouvrière, on ne trouve pas de variables économiques et sociales, on trouve des variables, alors que moi j'appelle immatériel, que certains appellent identitaire, hein, que moi j'appelle immatériel, c'est-à-dire le sentiment d'une paupérisation immatérielle, la perte ressentie, hein, d'un style de vie, d'une manière de vivre, qui peut côtoyer le sentiment d'une perte de patrimoine matériel, un niveau de vie, mais qui est beaucoup plus fort du côté de l'immatériel. C'est ce que j'appelle, moi, le populisme patrimonial, qui, me semble-t-il, est la figure actuelle du populisme à succès dans l'espace continental européen.
Mais avant de redonner la parole à Federico Tarragoni, Dominique Régnier, est-ce que cette dimension identitaire, parce que c'est vrai que c'est un terme qui revient assez souvent, elle caractérise aussi bien, d'après vous, le populisme de droite que le populisme de gauche?
Alors, elle caractérise un populisme de droite qui est en train d'emporter l'Europe. Elle aspire les classes populaires, les classes ouvrières, en termes d'électorat, qui s'abstiennent ou bien votent pour ces partis-là, si on prend les grands comportements au sein des classes populaires ou de la classe ouvrière, si bien que ça finit par poser une question à la gauche qui parfois, et c'est le cas en ce moment, on a deux ou trois exemples, s'interroge sur la nécessité d'inventer une gauche nationaliste, anti-immigré, pour prendre ce cas très important. C'est Auferstehen en Allemagne, ça, j'imagine, était commenté. On va voir quel succès ça rencontre. C'est le parti au pouvoir en Slovaquie, le Smer de Fico, qui est allié avec un parti ultranationaliste d'extrême droite, le SNS, pour gouverner. Ils gouvernent ensemble. On l'oublie, mais en Grèce, Syriza gouverne avec un parti d'extrême droite de type fasciste. C'est dans sa coalition. Donc c'est une espèce de combinaison. Au fond, la gauche, aujourd'hui, quand elle tente de reconquérir du pouvoir ou de le maintenir, sur ce terrain-là, elle est en train de céder sur la question dite identitaire. Je veux juste dire, j'emploie pas le mot identité parce que je l'applique aux personnes, pas aux groupes, mais je comprends bien qu'on l'applique aux groupes.
Federico Tarragoni, si j'ai bien compris ce que vous dites ce soir dans cette émission, c'est que finalement, le populisme, vous le voyez plutôt à gauche, vous, qu'à droite. Quelle place vous faites à la question économique, à la question sociale et à la question de l'identité pour expliquer le succès de ce moment populiste?
Alors pour moi, en fait, l'essentiel du problème réside dans ce qui s'est passé dans les Trente Glorieuses. C'est-à-dire que dans les Trente Glorieuses, il y a eu, disons, une politisation des classes populaires dans la plupart des pays occidentaux, l'Italie en est le cas symptomatique, par le Parti communiste. Le Parti communiste a réussi, en quelque sorte, à subsumer le sentiment national des classes populaires, des classes paupérisées, par l'aspiration à des droits sociaux égalitaires, donc par l'aspiration à l'égalité sociale. Lorsque, à la fin des années 70-80, la capacité, disons, d'entraînement politique des partis communistes baisse à la faveur justement de la chute du bloc soviétique dans la plupart des pays occidentaux, eh bien renaissent des forces nationalistes telles qu'on les avait connues entre la fin du 19e et les années 30, qui politisent effectivement les sentiments de précarité sociale de la classe ouvrière à droite. Donc pour moi, le problème vient du fait qu'on a tout simplement fait l'impasse sur cette donnée fondamentale, c'est-à-dire que entre 45 et 80, si les nationalismes n'ont pas le vent en poupe en Europe, c'est tout simplement que le sentiment d'identité nationale est politisé à gauche et qu'il est traduit par l'aspiration aux droits sociaux. Et s'y revient à la fin des années 80, donc c'est bien de tout un tas de néo-nationalisme pour moi dont on parle, c'est que justement ces partis-là n'ont plus le vent en poupe et la politisation se fait autrement. Donc les questions économiques et sociales se posent de façon totalement différente des deux cas. La base est la même, c'est-à-dire qu'on assiste à une paupérisation des classes populaires et à une augmentation des inégalités sociales. Mais d'un côté, vous avez une politisation populiste qui est celle d'aujourd'hui, qui est celle des mouvements de gauche, Syriza, le Front de Gauche, Podemos, et puis tout un tas de mouvements politiques en Amérique latine, et de l'autre côté une politisation nationaliste à droite par l'extrême droite, et elles n'ont, ces politisations-là, rien à voir.
Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction, Dominique Régnier ? Populisme plutôt de gauche, et à droite, il faudrait davantage parler de nationalisme. C'est ce que nous dit Federico Tarragoni.
Moi, je crois que le populisme a ceci de commun, qui est l'appel au peuple. Et d'ailleurs, c'est l'ambiguïté. Je ne veux pas revenir sur ce que vous avez déjà évoqué. Hein, mais c'est l'ambiguïté avec la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'appel au peuple. Alors, il y a quelque chose, il y a une ambiguïté qui va demeurer toujours. Et la démocratie contient du populisme de manière structurelle. Le populisme, c'est l'appel au peuple. Le peuple contient, dans le populisme de gauche, peut contenir une définition universaliste. Dans le populisme de droite, non. Il y a une circonscription territoriale, parfois même ethnique. Il n'y a plus de circonscription raciste au sens fort du terme, ça a disparu. Par contre, il peut y avoir une définition ethnique du peuple, qui sont les gens d'ici, d'origine même. D'ici, on peut ajouter cette fermeture-là. Et c'est ça qui marche électoralement, c'est ça qui a le plus de succès aujourd'hui. Et je suis d'accord pour dire que il y a une relation avec... c'est pour ça que moi je dis la fin des années 80. L'effondrement du communisme est pour moi un déterminant puissant par l'absence d'alternative, de fait. La rentrée pour la première fois dans un monde où il n'y a plus d'autre que ce que l'on vit, en tout cas présenté. La globalisation qui a lieu au même moment, l'OMC c'est 94, le web c'est 94, on pourrait le montrer, la chute de l'URSS c'est 91, etc. C'est la globalisation qui... elle-même, en tant que globalisation, et de plus en plus aujourd'hui, et ça s'arrêtera un jour, mais on est malheureusement dans le cœur, là, provoque une difficulté à défendre l'universalisme. Et donc favorise des politiques de repli et donne plutôt la victoire aux politiques de mise à l'abri. Non pas qu'on soit d'ailleurs nécessairement anti-globalisation, parce que le problème, c'est qu'en Europe, beaucoup de partis populistes parlent à un électorat qui est favorable à la globalisation parce que c'est là qu'il déploie son existence économique et qu'il y réussit, de manière générale. Mais en revanche, là où ça devient extrêmement difficile, et ce sont des moments qui nous attendent plus qu'ils n'ont déjà été vécus, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle parfois l'ethno-socialisme ou le chauvinisme social, ou en raison de la crise de l'État social, je serais d'accord aussi pour dire que c'est très important, la crise de l'État social fait que l'on veut réserver le bénéfice de la solidarité à ceux qui sont comme nous. Et donc là, on voit se rétracter dans la rareté de la solidarité, la raréfaction de la solidarité, on voit se rétracter des groupes pour avoir le bénéfice prioritaire de la solidarité. Et donc dire, là, c'est très clair, la solidarité, c'est pour ceux qui sont d'ici. Il faut donc limiter l'entrée de ceux qui viendraient puiser dans le même réservoir.
Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, sans doute, dans les termes pour essayer de comprendre aussi ce moment populiste, c'est la question du nous. C'est-à-dire, s'il y a du nous, il y a aussi les autres. Alors, les autres ne sont pas les mêmes selon qu'on est plutôt à gauche ou selon qu'on est plutôt à droite ou à l'extrême droite, mais les autres, ils existent aussi dans ce populisme de gauche, ce sont les élites. D'ailleurs, on retrouve aussi cette forte critique des élites. Hein, pour le nationaliste, puisque c'est à vous que je donne la parole maintenant, au Federico Tarragoni, mais ça n'est pas, ça n'est pas un point commun qui est totalement anodin que ce rejet des élites dans les populismes aujourd'hui.
Oui, mais attention, Maurras, au début du XXe siècle, s'en prenait aux élites aussi. Hein ? Alors à l'époque, évidemment, les élites étaient confondues souvent avec les juifs, parce que la France était héritière de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que nous vivons rien d'extrêmement nouveau. C'est-à-dire que la rhétorique peuple-élite a été toujours partagée entre la droite et la gauche, entre la droite nationaliste et la gauche, disons, socialiste ou même communiste. Hein. Thorèse s'en prenait aux élites en même temps que d'autres de droite. Je voulais juste apporter deux petites précisions très rapides sur les exemples justement de ces... populisme de droite, entre des grandes guillemets pour moi. Prenons par exemple le Front National. Le Front National, il y a des excellentes enquêtes en sciences politiques qui montrent que malgré le changement de rhétorique de Marine Le Pen, le Front National reste idéologiquement beaucoup plus proche de l'Action française et de donc ce qui montre que la théorie de l'exception fasciste française, le fait qu'il n'y ait pas eu de fascisme en France, n'est pas vraiment corroboré empiriquement, que d'un supposé populisme inventé dans les années 80. Et un autre exemple, le FPÖ autrichien, on parlait de l'Autriche tout à l'heure, le FPÖ est un parti néo-nazi. Je vais dire, je ne comprends pas pourquoi on continue à dire c'est un populisme, alors que ce parti-là défend quand même des thèses eugénistes et défend l'idée de la reconstitution, via notamment des corporations scolaires, de l'idéal d'une grande Allemagne qui comprendrait également l'Autriche, avec une transmission héréditaire et raciale du caractère allemand. Et ça, vous le trouvez parce que le principal leader du FPÖ est aujourd'hui inscrit dans une corporation scolaire qui s'appelle Marco Germania Pinkafeld. Et donc, il défend cette idée-là.
Donc, les qualifier de populistes, ces mouvements, ça serait quoi? C'est une façon d'atténuer peut-être leur dangerosité?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment problématique, notamment pour ce mouvement qui est clairement néo-nazi.
Dominique Ragnier.
Juste un mot, et puis je voudrais revenir sur l'action des élites, qui est très importante. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des strates dans ces partis-là. C'est vrai pour le FPÖ, vous avez raison, il y a des strates néo-nazis, effectivement, et notamment dans l'organisation des corporations étudiantes, c'est tout à fait vrai. C'est aussi le cas pour les démocrates de Suède. C'est des strates dont ces partis ont tenté de se débarrasser sans vraiment le vouloir, c'est pas très clair leur relation, c'est un peu comme ce qui s'est fait au Front National, maintenant Rassemblement National. C'est l'émancipation ou la mise à la carte de ces strates qui leur a permis de prospérer électoralement. Donc là, il y a une tension, il faudrait voir ce que ça donne. Sur les élites, je voudrais dire un mot qui me paraît important, enfin une remarque qui me paraît utile en tout cas, là, on comprend ce qu'est le populisme. Je crois, si on admet, c'est ce que moi je poserais comme hypothèse, que c'est un mouvement d'élite, le populisme. Le populisme, ce n'est pas un mouvement populaire. C'est une entreprise politique. Ce sont des élites qui sont à la marge d'un système et qui cherchent à en conquérir le centre. Et qui trouvent un marché de frustration, un marché de souffrance, un marché de colère, un marché de peur, et qui vont l'utiliser dans un contexte d'élitement, à la fois de doctrine, d'idées et d'organisation politique, qui vont l'utiliser comme des entrepreneurs politiques, exactement comme les autres, qui sont en train de sortir du champ aujourd'hui. Ce sont des élites qui font du populisme. C'est pas, quand on cite Trump, on ne voit pas le peuple, on voit quelqu'un qui mime le peuple. Supposer que le peuple ressemble à ça. Et on pourrait faire la liste. C'est pareil pour Mélenchon, c'est pareil pour Marine Le Pen. Ça n'est pas le peuple. Le peuple, il travaille. Il n'est pas élu toute sa vie. C'est pas ça, le peuple.
Mais ça veut dire que pour vous, Dominique Ragnier, le populisme, c'est systématiquement une tromperie. C'est-à-dire, c'est un discours qui est quand même, qui valorise justement le peuple et le contact direct avec le peuple. Mais ça, c'est une arnaque, disons.
D'un mot, moi, je dirais, alors c'est toujours un peu rapide et donc du coup un peu sommaire, hein, mais d'un mot, je dirais que c'est une supercherie politique, un peu comme les autres. Il y a toujours une dimension de supercherie politique. Le Parti socialiste n'a jamais fait une politique socialiste, et la droite gaulliste n'a jamais, après De Gaulle, n'a jamais été vraiment gaulliste. Il y a toujours une dimension de supercherie. Le problème avec les populistes, c'est qu'on n'est pas certain qu'une fois qu'ils ont pris le pouvoir grâce à cette supercherie, ils acceptent de le rendre. Et c'est la question spécifique, moi, que je poserai au mouvement populiste. Êtes-vous capable de rendre le pouvoir une fois que vous l'avez pris? On a le sentiment parfois, c'est la question qu'on peut se poser à propos de la Hongrie, par exemple, on a le sentiment qu'une fois qu'on prend le pouvoir, on fait en sorte, par toute une série de réformes, qu'en réalité, on ne puisse plus vous le reprendre, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne le rendez jamais.
Federico Tarragoni, dans un papier que vous avez signé pour le site The Conversation, vous disiez ceci à propos du populisme. C'est un moment de tension politique qui ne peut pas se prolonger indéfiniment, car il divise toujours les sociétés entre les amis et les ennemis du peuple. Une société ne peut pas vivre dans un tel état de tension pendant trop longtemps. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que le populisme est toujours voué à l'échec lorsqu'il accède au pouvoir, ou bien est-ce qu'il y a des expériences concluantes de populisme au pouvoir?
Il y en a très très peu, hein, mais
pourquoi?
Avant de vous répondre, je dirais juste que pour moi, la supercherie, c'est-à-dire des élites qui mènent cette supercherie au nom du peuple, ça c'est la démagogie, c'est-à-dire qu'on a un mot qui fonctionne beaucoup mieux que le populisme. Donc en ce sens, pour moi, Trump est clairement un démagogue.
L'un n'empêche pas l'autre, remarquez.
C'est très lié.
Bah, pas forcément. Pas forcément. Il y a des tas de démagogues qui sont pas populistes.
Oui, pas l'inverse.
Macron est un démagogue qui n'est pas populiste. C'est-à-dire, démagogue, en fait, c'est quand vous vous appuyez sur un certain nombre de pulsions et d'instincts que vous considérez populaires, et notamment sur la promesse, pour accéder au pouvoir et y rester. Ça, c'est quand même le béaba de tout un tas de politiciens professionnels aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, la démagogie est vraiment un style politique, alors que le populisme identifie autre chose. Mais je vais répondre à votre question. Je pense que le populisme, en tout cas, ces moments populistes qui surgissent dans l'histoire des démocraties, créent beaucoup de polarisation, ça c'est certain. Hein. Alors, je disais, ça reste des moments démocratiques, mais c'est très polarisateur entre, justement, le peuple et l'élite, le camp du peuple et le camp des élites, le camp de ceux qui n'ont rien et le camp de ceux qui exproprient la démocratie. Et lorsqu'ils arrivent au pouvoir, la plupart du temps, ça on le voit en Amérique latine, eh bien l'institutionnalisation les transforme parfois en fascisme et en tout cas, ça produit tout un tas de contradictions internes dont les populismes ont beaucoup de mal à s'affranchir.
Et vous dites ça les transforme parfois en fascisme et parfois en quoi ?
Et parfois...
En sociodémocrate classique
Alors, par exemple, le péronisme a été destitué par les militaires avant de se transformer en un fascisme. Et juste avant de se transformer, d'être destitué par les militaires, Perón a mis en place toute la législation sociale sur le droit au travail. Il a donné le droit de vote aux femmes. Il a éliminé la corruption électorale de la République argentine précédente. Donc voilà, il y a quand même un effort de démocratisation. Au contraire, Vargas s'est transformé en un État fasciste. Donc c'est pour ça aussi, ça permet de revenir rapidement sur ma définition du populisme. Si je tiens tellement à différencier populisme, nationalisme, fascisme, autoritarisme et démagogie, qui pour moi identifient des choses différentes, c'est parce qu'en fait je prends ma définition du seul contexte historique où le populisme est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire du seul contexte où on peut clairement savoir ce que ça donne une politique populiste, c'est-à-dire l'Amérique latine. Et pour les sociologues latino-américains, donc est populiste, ça. Et donc c'est pour ça que j'essaie ensuite de comparer des choses qui soient comparables avec ça. Et c'est pour ça que Trump n'est pas comparable avec ça. Ça, c'est complètement autre chose. Le FPÖ autrichien, c'est pas comparable avec ça. Voyez.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque et une erreur, justement, Dominique Reynier, d'essentialiser ces mouvements en leur accolant ce même qualificatif de populiste quand on voit que les effets qu'ils produisent quand ces leaders populistes arrivent au pouvoir sont extrêmement variés?
Oui, mais vous savez, c'est un point qu'on fait porter sur la notion de populisme. Et ça me frappe, ça, parce que on s'accorde à dire que François Mitterrand était socialiste et que Mao Tse-Tung était socialiste. On peut, sans difficulté, sur le libéralisme, on pourrait montrer que c'est complètement... Sur la démocratie même, le mot démocratie, le mot nationalisme, c'est très éclaté en réalité dans les pratiques ou les conceptions. Je crois qu'on l'applique davantage comme interrogation au populisme parce qu'il est lui-même le résultat d'une crise des doctrines et le populisme subit en quelque sorte une mesure de rétorsion de la part des discours destitués, en fait. Je ne sais pas si c'est clair de le dire comme ça, mais il apparaît quand il y a la ruine de toute une série de doctrines. Je serais d'accord, moi, avec Federico Tarragoni pour dire que ça me paraît important, pour insister sur la polarisation et sur le processus de transition. Et la question que je me pose, moi, c'est de savoir si le populisme dans lequel le moment populiste dans lequel nous sommes, avec toutes ces variétés que nous avons soulignées, nous amène vers une régénération de la démocratie. Franchement, je n'en sais rien. J'ai une inclinaison, mais elle est peut-être liée à mon caractère pessimiste. Donc, une régénération de la démocratie ou ce que j'appellerais, en inversant les termes, une transition autoritaire, comme on a parlé de transition démocratique dans les années, selon les pays qui ont connu transition démocratique. Je ne vais pas développer ce point. Et on peut penser que nous sommes là, pour le coup, à la fin d'un cycle historique qui serait celui des démocraties représentatives, que nous sortons et que cette sortie passe notamment par l'arrivée au pouvoir de populistes, principalement de droite, hein, principalement de droite. Et on peut le voir, on va les observer en Italie, parce qu'ils sont au pouvoir en Italie, hein, ils sont au pouvoir en Autriche, ils sont aux portes du pouvoir dans beaucoup de pays européens, et peut-être aussi en France. Hein. Je pense que nous sommes vraiment très très proches de leur arrivée au pouvoir en France.
Il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous d'ici la fin de l'émission, Dominique Reynier et Federico Tarragoni, par rapport alors justement à ce populisme de droite, ce nationalisme. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui aujourd'hui d'un projet, alors restons sur ce terme de populiste, est-ce qu'on peut parler d'un projet, d'un agenda populiste? Je voudrais juste vous faire écouter alors un très court extrait de Steve Bannon, ancien conseiller de George Bush. Il a contribué à le faire élire à la Maison Blanche. C'était à Rome, fin septembre. Écoutez ce que dit Steve Bannon.
Nous voulons retrouver notre souveraineté et récupérer notre citoyenneté. En Italie comme ailleurs, nous en avons assez d'entendre dire que protéger notre civilisation, notre société, nos familles, notre culture et notre pays, c'est être raciste, xénophobe et anti-immigration. Nous ne l'acceptons pas.
Voilà, pour ce faire, Steve Bannon est en tournée en Europe pour essayer d'agréger les différents, justement, mouvements populistes et nationalistes de droite, Dominique Reynier, dans la perspective des prochaines élections européennes. Est-ce que ça, c'est un projet qui vous paraît aujourd'hui crédible et dangereux?
Alors, dangereux pour moi, à coup sûr. Je crois que c'est la contingence, je vais répondre très vite à cette question passionnante et compliquée, c'est la contingence de deux mouvements. Les partis populistes nationaux ont intérêt à polariser, y compris dans cette espèce d'élan fédératif, pour aller aux élections européennes et avoir le meilleur score. Ça, c'est un premier élément. Mais de l'autre côté, et donc ils peuvent utiliser Steve Bannon ou jouer dans cette relation avec lui, mais de l'autre côté, ce que veut faire Steve Bannon, c'est un peu ce que veut faire aussi Poutine. Donc un peu, Trump et Poutine, là-dessus, sont sur la même stratégie. C'est utiliser les mouvements populistes européens pour détruire l'Union européenne. Ça, c'est très clair. Et asseoir davantage leur puissance qui, sur les anciennes marches de l'Est et qui d'autres sur les marches de l'Ouest. Chacun aura été quand même surpris d'entendre un représentant des États-Unis louer le retour de la souveraineté en Europe. Il faut quand même considérer que c'est une nouvelle.
Federico Tarragoni.
Moi, je suis littéralement effrayé par ce discours, parce que justement, il y a tout ce qui, dans le moment populiste actuel, peut produire de gros dégâts à l'avenir. Il y a cette idée de la souveraineté qui a un passé, une histoire, et qui aujourd'hui tend plutôt à s'opposer à celle de l'universalité des droits. Il y a cette idée, au fond, d'une droite décomplexée qui doit réagir contre la stigmatisation de xénophobes, racistes, tout ça. Dans le moment dans lequel nous sommes, avec donc la crise des migrants et avec les difficultés d'accueil des migrants, je pense que ce genre de discours qui sans doute plaisent beaucoup aux leaders de la Ligue Nord, de la Ligue, Matteo Salvini, ne font que attiser la haine en fait et décomplexer les individus et les électeurs des mouvements nationalistes en Europe.
Est-ce que néanmoins les divergences entre ces mouvements ne sont pas plus importantes que leur point commun? Mais peut-être que si l'objectif est de conquérir le pouvoir, il peut y avoir aussi on gomme à un moment donné les divergences. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en Italie, hein, quand on voit que le gouvernement c'est une coalition entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles par exemple.
C'est une coalition qui a été en quelque sorte obligée par le contexte de l'après-élection italienne, parce que effectivement le PS a refusé de s'allier avec les 5 étoiles, ce qui aurait créé un gouvernement de gauche populiste justement, et que du coup l'appel que les 5 étoiles ont fait à toutes les forces politiques a été reçu uniquement par la Ligue. Alors évidemment ça ne veut pas dire que ces deux acteurs politiques défendent exactement la même vision des choses, il y a énormément de différences, parce que le mouvement 5 étoiles est un mouvement citoyen qui a été créé avec cet élan anticorruption pour la démocratie directe, pour le nettoyage du Parlement de tous les corrompus, des mafieux, etc. Et que de l'autre côté, la Ligue milite pour l'expulsion des migrants en situation à la fois de clandestinité, à la fois les migrants économiques. Donc l'accord entre les deux se fait sur un minimum commun dénominateur qui est la destruction de toutes les politiques libérales imposées par les dits gouvernements techniques qui ont quand même gouverné pendant très longtemps en Italie sur un fond d'illégitimité démocratique totale. Hein, parce qu'ils étaient, ils n'avaient pas en quelque sorte la légitimité populaire pour gouverner.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Federico Tarragoni, donc, je renvoie à votre prochain ouvrage. Il va falloir attendre encore quelques semaines. L'éthique démocratique et l'esprit du populisme. Ce sera publié en début d'année 2019 aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup, Dominique Reynier. Où va la démocratie? Et c'est publié chez Plon. Et puis, il faut rappeler aussi que la Fondapol publie régulièrement des études sur tout un tas de sujets politiques et de société. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur notre site franceculture.fr, la page du grain à moudre. Vous pouvez la télécharger. Vous pouvez également nous écrire sur le petit onglet qui ressemble à un mail. Merci à l'équipe du grain, Isolte Sicard, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulcer et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron. Avec à la prise de son, Alice Seyed. Arnaud Laporte, la dispute, ce sera les arts plastiques ce soir.
Absolument, un tour d'exposition ce soir des Gonchilio Atta Hondo à Hervé Guibert. Et demain, la question du grain à moudre sera...
Diffusion de la première des tables rondes que nous avons enregistrées samedi dernier à la Sorbonne dans le cadre de la fête de la science. Table ronde consacrée fake news, la question demain, comment vulgariser sans falsifier. La suite des diffusions, ce sera vendredi.
Les Infox.